citadins, aux villageois, aux professionnels, à tout le monde.
Tout le monde, toute la population entière.
Où est-ce qu'on peut faire ce bilan de santé? Est-ce qu'on peut se rendre chez l'infirmier chez qui on va toutefois qu'on se sent mal? Ou il faut aller à l'hôpital dans un grand centre?
Normalement, ce qui est recommandé, c'est de se retrouver dans un centre hospitalier universitaire pour employer le lexique francophone. Dans un pays francophone, je pense que nous avons des centres hospitaliers universitaires, nous avons des centres hospitaliers régionaux. N'importe en fait quel centre, je dirais, de santé communautaire ou urbain, clinique privée, qui a en son sein un personnel qui puisse pratiquer la médecine générale, c'est possible. Dans tout endroit où se trouve un médecin général ou un infirmier, il est possible de faire un bilan de santé annuel.
Ça doit coûter cher. Hein?
Je l'affirme, ce n'est pas gratuit. En Afrique, surtout que dans certains pays, même avec l'assurance, il faut encore payer pour le bilan annuel de santé. Mais nous avons pensé à cette solution. Voilà pourquoi, au sein des SCB System, nous avons créé l'application Apollo.
L'application Apollo qui permet de faire quoi?
L'application Apollo, en fait, permet de vulgariser le bilan de santé. Avec Apollo, par exemple, nous permettrons de réduire tous les coûts du bilan de santé en employant une économie d'échelle. C'est-à-dire, nous pouvons aller vers une clinique ou un médecin et lui dire, nous allons vous apporter like, 1 million de patients par an sur qui vous devez performer le bilan de santé annuel. Nous allons like, provide des services.
Pour fournir les services.
Yes, merci, yes, fournir les services. Donc, avec cette approche, si le bilan de santé coûtait normalement 10 000 francs, parce que le prix varie en 10 000 et 100 000 dans certains pays francophones. Donc, si normalement il devait charger 10 000 francs pour 20 patients par an, parce que c'est vraiment pas une pratique répandue en Afrique, on lui dira nous apporterons 1 million de personnes, donc il serait préférable que tu fasses à juste 1 000 francs. Ce gars peut être OK avec parce qu'il verra cette entrée de capital.
Vous faites tout ça pour vulgariser le bilan de santé et faire la promotion de la santé en Afrique?
Nous avons une approche pour vulgariser le bilan de santé en Afrique. Sur ce, nous travaillons.
Vous êtes le directeur de CBS Service. Vous avez créé une application pour faire la promotion de la santé en Afrique.
Yes.
C'est un sujet tellement important que nous allons y revenir pour une autre édition de Votre Santé, Votre Avenir.
Yes.
Pour revenir au bilan de santé, est-ce que cette notion est assez familière en Afrique? Est-ce que les Africains font facilement le bilan de santé, même ceux qui ont de l'argent?
Je dirais non. Je dirais non, parce qu'en 2018, nous avons fait une recherche qui a prouvé que moins de 2% de la population en Afrique de l'Ouest pratiquait le bilan de santé. C'était vraiment pas courant. Et au ressort, en fait, de notre recherche, nous avons constaté que la majorité des personnes, même des médecins et tout, ils ont pris pour l'habitude de se rendre à l'hôpital lorsque c'est déjà grave. On ne pratique pas la prévention, en fait, en Afrique. Et ça, c'est, je pense que la base de tous nos maux.
Alors que quand c'est déjà grave, parfois ça peut conduire à trop tard.
Yes.
En quelle année vous avez fait cette étude?
En 2018.
Et seulement en Afrique de l'Ouest?
Oui, yeah, en Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous avez une idée du nombre ou bien du taux des personnes qui font régulièrement un bilan de santé dans toute l'Afrique?
Nous n'avons pas spread out. Conduit, n'est-ce pas? Je trouvais le mot en français. Nous n'avons pas en fait fait...
Conduit une étude?
Conduit, merci. Conduit l'étude sur l'entièreté de l'Afrique. Vu que nous avions comme communauté de base l'Afrique de l'Ouest et nous avions cherché à pénétrer avec notre nouveau service. Donc, le taux annuel en Afrique, je dirais toujours que c'est vraiment bas. Parce que pour l'Africain lambda, le bilan de santé n'est pas dans sa culture. Donc, je peux prédire que ça sera moins de 10%.
Est-ce que même les Africains qui ont de l'argent ont l'habitude de faire des bilans de santé?
C'est pire, en fait, parce que les Africains qui ont le moyen de faire le bilan de santé n'en font pas. Ils se disent qu'ils sont toujours bien portants et lorsqu'ils auront une maladie, ils pourront immédiatement se soigner. Ils se disent, oh, nous n'avons pas du temps, nous sommes vraiment pris. Nous ne pourrons pas perdre une heure ou une journée de notre temps pour aller juste checker notre statut au niveau de notre santé. Ça, c'est vraiment un problème. Peu de personnes en fait le font. Même certaines personnes qui ont vécu à l'étranger, la diaspora qui se retrouve en Afrique, ne le pratiquent plus. Juste parce qu'ils ne sont pas orientés ou juste qu'ils perdent immédiatement cette habitude-là se retrouvant sur le continent africain.
Est-ce que l'absence d'un bilan de santé contribuerait aussi au taux élevé de mortalité dans les pays africains?
Là, je le confirme. Je suis à 1000%, je dirais, sûr que le plus gros problème de l'Afrique, Afrique, c'est la prévention. Le bilan de santé est à la base de la prévention. Parce que, je peux vous dire, l'Afrique subsaharienne a que 11% de la population mondiale, mais cette Afrique subsaharienne a 70% des maladies transmissibles et non transmissibles. Ça, c'est vraiment incroyable. La malaria, tout ce genre de maladies, nous pouvons les identifier avec uniquement un bilan de santé. Il faut les identifier à la base.
Identifier ces maladies pour mieux les combattre?
Lorsque ces maladies seront identifiées, on pourra mieux les prévenir, mieux les soigner et réduire le taux d'infection. Notre approche, nous appliquons l'intelligence artificielle pour dégager certaines zones qui seront à risque que nous pouvons planifier à l'avance des campagnes de vaccination. Lorsque vous ne savez pas, aucune campagne de vaccination ne peut vraiment prospérer. Dites-vous que si dans un village de 1000 personnes, aucune personne n'a déjà été vaccinée ou n'a déjà fait un bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir qui souffre de quoi, qui a quoi. Et ça, c'est un très, très grand problème parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre un problème sans savoir la cause, la racine en fait. Et le bilan de santé permet de décortiquer cette racine-là.
Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur, Marius Gris, mais il n'a pas dit d'où il écrit. Il se demande si l'ignorance ne contribue pas aussi à l'absence du bilan de santé dans les pays africains.
Je dirais que l'ignorance serait un gros mot. Mais je dirais que le manque d'information et une politique sociale qui privilégie le bilan de santé serait en fait à la base de ce manque-là. Parce que certaines personnes le savent, mais ne le font pas. Certaines personnes ne le savent pas et se disent que c'est déjà coûteux parce que l'Africain lambda cherche à avoir 2 dollars par jour, voire qu'il doit aller dépenser peut-être 10 dollars ou 20 dollars. Donc, se dire, mais si je suis bien portant, pourquoi j'irai dépenser de l'argent inutile? Certains considèrent que c'est inutile. Juste parce que le niveau social ne leur permet pas d'apprécier la valeur de ce système. Donc, on dira le manque d'information.
Tout en tenant compte de la pauvreté financière des populations africaines, comment est-ce qu'on peut les aider à être sensibilisés sur ce problème?
C'est une très, très belle question. Il faut une politique gouvernementale qui facilitera cela, qui est une prise en charge. Il faut aussi une réelle implication des organisations internationales. Et tout cela part de la base des données. Il faut arriver à les identifier. Tous ces Africains dans les zones les plus reculées, tous ces Africains qui sont en ville, il faut arriver à les identifier. L'identification est le plus gros problème africain. Lorsque vous aurez identifié toute cette population, vous pourrez personnellement contacter chaque personne, avoir des rendez-vous pour que cette dernière puisse faire le bilan de santé. Il faut une politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit être au centre de tout. Il faut une collaboration du gouvernement, de la société privée et des institutions internationales qui faciliteront toute innovation dans le but de vulgariser le bilan de santé et la vaccination accurate, la vaccination précise. Je peux vous rassurer qu'avec un bilan de santé, toute campagne de vaccination pourra atteindre une précision jamais vue auparavant.
Est-ce que les politiques sanitaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, le nombre des médecins dans les villes ou dans les villages en Afrique sont favorables à une prise de conscience des populations africaines quant au bilan de santé qu'elles doivent faire de façon régulière?
Je dirais non. Vu que les infrastructures en place peuvent faciliter le bilan de santé, mais l'utilisation de ces infrastructures déjà qui sont à la limite archaïque ne permet pas à l'individu lambda d'avoir accès et de recevoir un bilan de santé. Vu qu'il y a plusieurs problèmes, il y a le problème culturel, il y a le problème financier et il y a le manque d'informations. Et lorsque le plateau technique n'est pas assez percutant, assez performant, parce que disons que pour un bilan de santé, il faut mobiliser un infirmier, un docteur qui va le performer, qui prendra en moyenne 2 heures et plus, combien de personnes seront à mesure de recevoir cela, sachant que nous sommes underserved, nous avons moins de médecins disponibles pour la population. Dans le pays développé, nous avons pratiquement 4 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, il se trouve que nous avons moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Donc, vous voyez que nous n'avons que 360 jours. Lorsque nous partons dans un pays développé et nous disons, OK, avec 4 médecins pour 1000 habitants, nous retrouvons 250 habitants par médecin. Donc, en une année civile de 360, le médecin peut être à mesure de consulter toute personne. Mais dans nos pays, nous n'avons que moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Comment arriver avec le plateau en place à desservir 1000 habitants par an? Sachant que, vu nos infrastructures, La moyenne qui est de 2 heures pour un bilan annuel de santé prendra pratiquement une journée, même le déplacement est une journée du temps. Donc comment gagner? Et il n'y a que la technologie qui puisse arriver à changer cette part.
On sait que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc les populations africaines qui n'ont pas les moyens de se faire un bilan de santé, qu'est-ce qu'elles peuvent quand même faire pour prévenir certaines maladies?
La base serait d'être active. Cette population, je pense qu'elle est déjà assez active, donc d'être active, prendre soin de son hygiène, de vérifier la provenance de différents aliments et d'avoir une hygiène publique un peu plus améliorée. Nous avons constaté qu'en Afrique, il y a un peu de laisser aller avec la propreté. Quelqu'un qui vit dans un quartier, il voit qu'il y a une eau stagnante et il ne sera pas à mesure de chercher à résoudre le problème de cette eau stagnante. Ils seront OK à constater cela chaque jour, à apporter des moustiques, à apporter des maladies.
Pour terminer notre interview, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux populations africaines ou aux autorités africaines en rapport avec le bilan de santé?
Le bilan de santé est très, 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 très important et je conseillerais à tout Africain de s'y habituer, d'imprégner cette pratique-là dans son quotidien. Pour un départ, il faut déjà chercher à pratiquer cela une fois par an. Même, je dirais, une fois chaque 2 années pour être OK pour un pays africain, mais l'esprit du bilan de santé annuel. Il faut s'y imprégner et chercher les nouvelles technologies qui seront en place pour pouvoir faciliter cette activité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Cheikh.
C'est avec un grand plaisir.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était notre discussion avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System et doctorant en ingénierie management. Nous avons discuté sur l'importance du bilan de santé. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans carnet de santé, un regard sur la drépanocytose, maladie génétique très répandue dans le monde, mais assez méconnue. Une ONG en République démocratique du Congo s'attelle à améliorer la santé sexuelle et la situation des femmes handicapées. Comment obtenir ou garder une peau bien hydratée? La réponse dans Conseils et Astuces. C'est dans cette édition le carnet de santé.
De vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une maladie encore largement méconnue et pourtant mortelle à grande échelle. Chaque année, environ 300 000 enfants qui naissent en Afrique sont atteints de drépanocytose, également appelée anémie falciforme. Maladie génétique très répandue dans le monde, la drépanocytose touche des millions de personnes, principalement les personnes d'origine africaine. Cette anomalie due à une mutation génétique déclenche une déformation des globules rouges en forme de croissant et provoque entre autres des douleurs parfois insupportables. Ici aux États-Unis, les chercheurs pensent maintenant avoir découvert un traitement efficace contre cette maladie douloureuse et débilitante. Voici le reportage de Faith Lapidus, récit Nanit Talani.
Lendrick Holmes, 29 ans, vit à Mobile dans l'Alabama. Il révèle que la drépanocytose lui donnait l'impression que son corps était en train d'étouffer, l'empêchant de faire beaucoup de choses.
Je voulais pratiquer le football, le basketball, le karaté et le taekwondo, mais je ne pouvais pas. Alors vous vivez simplement par procuration à travers vos pères. J'ai vécu par procuration à travers les gens qui étaient autour de moi et je les observais faire des choses que je ne pouvais pas faire.
Ce n'est plus le cas puisque Holmes est l'un des 9 patients ayant participé à l'essai clinique d'un nouveau traitement pour la drépanocytose aux instituts nationaux de la santé aux États-Unis.
Nous ajoutons simplement le gène. Nous laissons le gène défectueux intact. C'est ce qu'on appelle la thérapie par addition des gènes.
En l'espace de 2 ou 3 mois, les 9 patients présentaient des signes de rémission et commençaient à retrouver un état de santé normal pour la première fois de leur vie.
Je ne suis plus le même Lendrick. Je vais pouvoir dire, ouais, c'est arrivé, j'étais comme ça, mais je n'ai plus d'anémie falciforme.
Une transformation spectaculaire.
Quand on examine la numération sanguine et les protéines sanguines de ces patients atteints de drépanocytose, on dirait qu'ils n'ont plus la maladie.
Maintenant, c'est encore le début. Nous suivons ces patients depuis seulement un an ou plus. Mais il semble qu'il serait logique de dire que cela pourrait être un remède.
Pas du jour au lendemain, ajoute-t-il. Avec la technologie et les coûts inhérents à cet essai, il est peu probable que les personnes souffrant de l'anémie falciforme soient aidées dans les pays pauvres. Mais l'approche consistant à introduire un gène corrigé est prometteuse pour toutes les nations, alors que les chercheurs continuent d'affiner et d'améliorer la thérapie.
Pour en savoir plus sur la drépanocytose, nous joignons par Skype à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Eric Agnero, porte-parole de la Fondation LIA. Eric, merci d'être avec nous.
C'est un plaisir d'être avec vous, Linor.
Alors, comment s'explique la drépanocytose et quels sont les signes qui indiquent qu'un enfant pourrait souffrir de cette maladie?
Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Donc cela veut dire que c'est pas une maladie et qui est contagieuse. On devient drépanocytaire parce qu'on a reçu des gènes de parents qui eux sont drépanocytaires. C'est une maladie qui en gros fait en sorte que les globules rouges qui sont très importants pour la circulation sanguine et pour la santé en général se déforment, deviennent rigides et ils prennent une forme comme un croissant de lune, ce qui rend plus difficile la circulation donc de ces globules-là, et souvent dans des petits vaisseaux, ils n'arrivent pas à passer, et donc ça crée, on va dire comme ça, un embouteillage de ces globules rouges-là. Mais il faut d'abord que je fasse comprendre qu'il y a deux types de drépanocytose. Il y a la drépanocytose homozygote et la forme hétérozygote. C'est la forme qui ne se manifeste pas, et la personne ne fait pas de signe de la maladie. Mais cette personne peut donner naissance à un enfant drépanocytaire si l'autre parent est également porteur du gène sans faire la maladie. Alors, dans sa forme homozygote, qui est celle qui est traduite par les symptômes de la drépanocytose, eh bien, cette maladie se traduit chez l'enfant de 12 à 18 mois par un ictère, une pâleur, un gros foie, une grosse rate, des crises douloureuses abdominales et des douleurs des membres sont très très caractéristiques.
Est-il possible de prévenir cette maladie étant donné que lorsque un parent ou les deux parents ont le gène, ils peuvent la transmettre à leur enfant?
Tout à fait. Bon, donc contrairement à certaines maladies génétiques, la drépanocytose peut être évitée si les populations sont suffisamment informées et sensibilisées, de telle sorte qu'ils puissent faire le bon choix. Certains parents sont obligés soit de ne pas faire d'enfants parce que le risque est grand.
Et quels sont les traitements disponibles?
Alors, on ne sait pas encore guérir la drépanocytose. On sait très bien, en revanche, soigner, voire prévenir les symptômes. Alors, les jeunes enfants reçoivent tous les jours un sirop antibiotique et sont vaccinés contre certains germes auxquels ils sont particulièrement susceptibles, comme le pneumocoque. Les enfants doivent boire régulièrement pour éviter la déshydratation. Il faut pas être évité au froid, parce que le froid, fait des ravages chez les drépanocytaires. Et en cas de douleur, on administre des antalgiques de puissance croissante, y compris à l'école, grâce à des projets donc dans certaines écoles.
Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos réactions sur Facebook concernant la drépanocytose ou anémie falciforme. Alors Jonathan Chiswaka écrit « La politique sanitaire de nos pays africains doit être améliorée. Les parents ne vérifient jamais leur groupe sanguin avant de s'engager dans une relation ou se marier. C'est la cause primordiale de ces anomalies. » Eric Agnero, quelle est votre réaction?
Oui, c'est la maladie génétique la plus répandue dans la région africaine. Hein. Mais le problème est véritable, c'est la prise en charge des malades. Notre ami internaute l'a dit, ça commence déjà par les politiques de prévention et qui sait, des tests systématiques avant le mariage. Bon, il faut que le gouvernement encourage cela, mais il y a aussi le manque de centres spécialisés pour la prise en charge. Parce qu'une chose est de prévenir, mais une autre chose est de guérir ou du moins de soigner les personnes malades.
Et justement, Eric Agnero, avant qu'on termine, rapidement, la Fondation LIA en Côte d'Ivoire, donc qu'est-ce qu'elle fait pour pallier un peu à cette difficulté-là? Rapidement.
Eh bien, Eh bien, la Fondation LIA vient là où, effectivement, le manque de politique fait qu'on a besoin d'autres acteurs. Et nous continuons à dire aux Ivoiriens et aux Africains que cette maladie peut être évitée si on sait ce qu'elle est et comment faire en sorte qu'on l'évite.
Eric Agnero, le message est clair. Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est un plaisir pour nous, à la Fondation, d'être invité par la Voix de l'Amérique.
Merci. Je vous en prie. Je rappelle qu'Eric Agnero est porte-parole de la Fondation LIA en Côte d'Ivoire. Accès aux bâtiments publics ou encore aux soins de santé appropriés, en RDC comme ailleurs, le parcours des handicapés moteurs est semé d'embûches. Et pour les femmes, le défi est encore alourdi par la discrimination sexuelle et l'ignorance de leurs droits en matière de reproduction. Mais à Kinshasa, un groupe de personnes déterminées travaille à changer la donne.
Lofuma Vibidila est coiffeuse. Pour elle, le combat d'une femme handicapée est double. Être considérée comme membre à part entière de la société et être considérée comme des femmes.
Nous n'avions absolument pas conscience de notre propre valeur. Qui suis-je? Où je vais? Ce que je fais de ma féminité en tant que femme handicapée?
Pour le gynécologue Valentin Titende Badimou, les croyances comme les préjugés sont autant de freins à l'épanouissement sexuel des femmes handicapées.
Déjà, la sexualité est un tabou dans nos habitudes. On n'en parle pas trop. Alors, lorsque un parent a une fille en situation de handicap, il n'osait pas entendre parler de cela par rapport à sa fille.
Et pourtant, ces filles handicapées ont bel et bien une vie sexuelle qui peut mener à des conduites à risque sans les informations adéquates et l'accompagnement approprié.
Ils pensent que lorsque moi je suis femme handicapée et qu'il y a un homme apparemment valide qui m'approche, c'est une chance pour moi.
Le docteur Alice Mbouyi témoigne que les femmes handicapées sont souvent victimes de discrimination de la part des prestataires de soins de santé, prestataires dont elles dépendent.
Certaines handicapées, quand elles arrivent automatiquement, dès qu'elle a accouché, celle-ci, il faut lui donner une méthode. Non.
Elle note toutefois des progrès dans l'attitude des prestataires grâce à des campagnes de sensibilisation et de formation organisées par son programme. Bijou Vibidila l'affirme, les programmes de la CODELMA lui ont donné la confiance nécessaire pour prendre les bonnes décisions pour elle comme pour sa famille.
En l'aide d'un homme, s'il vous plaît. Ramandier, c'est mon travail qui m'a aidé à scolariser mon fils.
Les femmes en situation de handicap sont aussi exposées aux violences sexuelles, un problème majeur à travers le monde. La peau est composée d'eau à environ 60% et selon les experts, l'hydratation est la base de la bonne santé de la peau. Au-delà de l'aspect esthétique, elle garantit son bon fonctionnement, y compris le renouvellement cellulaire. Cependant, les changements de saison, l'air sec, la pollution et le stress ont tendance à déshydrater la peau. Voici quelques conseils des experts de la clinique Mayo des États-Unis qui pourraient vous aider à garder une peau hydratée. Tout d'abord, évitez le contact prolongé avec de l'eau chaude. Ensuite, utilisez un nettoyant doux. Évitez aussi d'utiliser du savon déodorant et des produits de soins de la peau contenant de l'alcool, des parfums, des rétinoïdes ou de l'acide alpha-hydroxylé. Hydratez votre peau immédiatement après avoir pris un bain ou lavé vos mains. Évitez le café ou l'alcool si possible, car il peut vous déshydrater la peau. Et surtout, augmentez votre consommation d'eau si vous ne buvez pas souvent. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou.
C'est la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons parlé de l'importance du bilan de santé avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur d'Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiero et de Carl Sterling, qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.